Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous avez récemment déposé une proposition de loi au Sénat pour que la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État soit inscrite dans la Constitution française. Pour quelle raison ?
Alors, parce que la Constitution française, celle de la Ve République, dit clairement que la France est un pays laïque. Sans tellement définir ce qu'est la laïcité. Or, aujourd'hui, on s'accorde à penser que la laïcité, c'est deux choses qui sont clairement affirmées dans la loi de 1905. C'est d'une part la liberté de conscience, et notamment la liberté de conscience religieuse, et ensuite la séparation des Églises et de l'État. Les deux choses étant totalement indissociables, on ne peut pas assurer de liberté de conscience s'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Or, autant la liberté de conscience est aujourd'hui bien protégée par la Constitution, et notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en ce qui concerne la séparation de l'Église et de l'État, c'est plus difficile. La mettre dans la Constitution permettrait une meilleure application de la loi de 1905 à tout le territoire national.
Alors, je rappelle l'article 1er de la Constitution, vous l'avez évoqué. Oui. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Voilà. Cette formulation, pour vous, elle n'est pas suffisante pour garantir le respect de la loi.
Voilà, parce qu'il manque la séparation de l'Église et de l'État. Alors, un exemple, hein, vous avez rappelé cette très belle formule hein, qui est un programme républicain d'actualité, hein, je le pense. Hein, une république, une indivisible, laïque et sociale, on a encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. Mais quand la déclaration dit que la république est une et indivisible, ça veut dire que la loi doit s'appliquer partout de la même façon, ce qui n'est pas le cas de la loi de 1905. Il y a des territoires de la république où elle ne s'applique pas, je pense à la Guyane, je pense à l'Outre-mer et puis à l'Alsace-Moselle avec le Concordat.
Alors justement, quelles seraient les conséquences de votre proposition de loi pour les territoires comme l'Alsace, la Moselle et les Outre-mer ?
Mais ça veut dire que chaque citoyen et chaque citoyenne, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil constitutionnel, pourrait demander au Conseil constitutionnel d'abolir les lois qui ne seraient pas conformes à ce principe d'ordre général. L'intérêt de ma disposition, c'est que ça permet ensuite à chaque citoyen de se saisir de ce dispositif pour aller plus loin dans l'application de la laïcité. Et ça n'oblige pas le Parlement à revoir tout un ensemble de lois et de règlements qui aujourd'hui ne sont pas conformes à cet esprit.
Le Concordat, pour vous, n'est plus d'actualité. C'est un anachronisme dans la France de 2022 ?
Total. C'est un archaïsme. Il faut rappeler que Napoléon a voulu le Concordat pour soumettre les cultes. Il voulait avoir une forme d'autorité supérieure sur l'ensemble des activités humaines, y compris la religion. Les ministres du culte étaient conçus un peu à l'équivalent des préfets. Ce que Napoléon leur demandait, c'était d'appliquer aussi une certaine vision que lui avait de ce que devait être la religion. On est heureusement sorti de cette vision des choses, mais là, c'est une espèce de vestiges archéologiques, je suis archéologue, donc vous me permettrez ce clin d'œil, qui n'a absolument plus de sens. Et ça a d'autant plus de sens qu'il n'y a que 4 religions qui sont reconnues en Alsace-Moselle, la religion catholique, 2 religions protestantes et la religion juive. Donc il n'est absolument pas question de la religion musulmane, ni des cultes chrétiens évangéliques, etc. Donc il y a une forme de discrimination à n'aider que 4 religions et pas les autres.
Alors, votre proposition de loi, Pierre Ouzoulias, a été signée par le groupe communiste au
oui.
Sénat. Est-ce
oui.
que les autres groupes sont intéressés par votre proposition de loi ?
J'espère. J'espère que tout le camp laïque, qu'il soit de droite comme de gauche, parce que c'est des choses qui peuvent nous unir sur des principes républicains, se retrouvera dans l'hémicycle pour voter cette proposition. Je pense que c'est important. Ça sera une marque d'attachement à la laïcité et ça clarifierait d'autant plus la position de certains qui se réclament des grands laïcs, mais qui ont une vision un peu tronquée de la laïcité.
Vous pensez à qui précisément ?
Ah, ben je pense précisément aux personnes qui considèrent que la laïcité, c'est surtout pour empêcher la pratique du culte musulman qui serait contraire à une certaine idée de la France qui n'est pas la mienne.
Alors, il est souvent écrit que la laïcité est une spécificité française. Pensez-vous que ce code du vivre ensemble pourrait un jour s'appliquer dans des pays qui ont une religion d'État ? Je pense à une grande partie des pays arabes, par exemple, où le mariage civil est interdit.
Par exemple, je connais un peu la situation libanaise. On ne peut pas dire que le communautarisme tel qu'il a été institué par la loi au moment de l'indépendance du Liban ait permis de fortifier l'État. C'est tout le contraire. Le Liban souffre parce qu'il n'y a pas d'État. Et je pense que une des façons de dépasser aujourd'hui ce blocage, ça serait justement la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, pour retrouver un État. Et par ailleurs, j'ai appris comme vous qu'en Iran, la police des mœurs venait d'être dissoute. C'est grâce à l'intervention des femmes qui, au nom du principe de la laïcité, ont réclamé la liberté de se couvrir ou pas de se couvrir. Donc je suis certain que pour tout le Proche-Orient, la laïcité aujourd'hui, ça peut être l'instrument d'une nouvelle émancipation des peuples.
Que répondez-vous à ceux qui peuvent avoir le sentiment que la laïcité en France est devenue une sorte de religion d'État et que ce principe est souvent utilisé pour invisibiliser l'islam ou les musulmans ?
Je pense que c'est une vision qui est fausse de la laïcité. Personnellement, je suis athée, mais je crois que dans le débat public, il est extrêmement important en ce moment qu'il puisse y avoir une prise de parole des cultes, quels qu'ils soient, sur tous les sujets, et pas seulement sur les sujets de société, l'avortement, la contraception et la fin de vie. Et pour ça, il faut qu'on donne la certitude que les cultes puissent s'exprimer librement. Alors, au sein des édifices religieux, bien sûr, dans la communauté, bien sûr, mais plus largement dans toute la société. Parce que la laïcité, je le répète, c'est d'abord une loi de liberté de conscience. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Si on passait, comme par le passé, à un régime où il y aurait une religion privilégiée, qui serait bien évidemment la religion catholique, il faut que les Français de confession musulmane comprennent bien que, dans ces cas-là, ils seraient des citoyens de seconde zone. Parce que, de toute façon, on leur fera valoir qu'il y a une seule religion qui doit être prise en compte, c'est la religion du plus grand nombre. Voilà. Donc, encore une fois, la laïcité, c'est un instrument de liberté et surtout pas d'oppression.
Pierre Ouzoulias, la gauche est parfois accusée par ses adversaires d'être trop accommodante sur la laïcité. Récemment, la sénatrice Laurence Rossignol et le député Philippe Brun, qui sont tous les deux socialistes, ont appelé à une ligne populaire au sein de la gauche pour ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite des thèmes comme la nation, la laïcité. C'est une démarche à laquelle vous adhérez ?
Je la partage totalement. Totalement, c'est toute ma culture familiale, c'est toute l'histoire de mon parti politique, d'une partie de ma famille. Il y avait une défense très populaire de la laïcité, qui était celle liée à la liberté d'expression sous toutes ses formes, au refus de la censure qui s'applique aux idées, mais aussi à l'art, aux différentes formations artistiques. Je pense que la gauche doit renouer avec ce discours, qui était le discours de Jaurès en 1905. Reprenez ce qu'a dit Jaurès, c'est une actualité absolument fantastique aujourd'hui.
Alors c'est la démarche aussi de Fabien Roussel, le leader du Parti communiste. Pourquoi est-il mal compris, notamment par les insoumis et par certains écologistes, sur une question comme la laïcité ?
Il faut pourrait leur poser la question. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. La laïcité, elle est vraiment complètement associée à la République. Et puis, en ce qui concerne la famille politique, la Commune de Paris, celle de 1871, parce que c'est une des choses qu'avait mis en place la Commune de Paris, le droit de vote pour les femmes, la laïcité, comprise comme la séparation de l'Église et l'État. Donc, c'est vraiment au cœur de notre tradition républicaine, et j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on puisse être en opposition à ce qu'on constituait vraiment le cœur battant de la gauche depuis deux siècles.
Mais comment expliquez-vous qu'on entende surtout Marine Le Pen et puis une partie de la droite sur la laïcité ?
Mais parce que la gauche a oublié ce combat. Et j'en suis désolé. Sous tous les gouvernements, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite, il y a eu des reculs sur la laïcité, sur ce qu'étaient vraiment les principes fondamentaux de la loi de 1905. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument totalement inverser la démarche et revenir à ce qu'était l'esprit de la loi de 1905 et revenir aussi sur toutes les reculades de la gauche et des gouvernements successifs en cette matière.
Pierre Ouzoulias, de la même manière que vous faites cette proposition pour inscrire la laïcité dans la Constitution, vous avez publié un rapport sur la conservation des édifices religieux. Il y a actuellement un patrimoine religieux en danger en France ?
Oui, tout à fait. Il y a entre 2000 et 3000 églises catholiques, essentiellement, qui sont propriétés des communes, alors très très grande majorité, qui sont menacées par les difficultés du culte, la baisse de la pratique. C'est des bâtiments qui sont souvent très peu utilisés et pour lesquels il y a des problèmes de conservation et aussi un problème de justification politique des moyens que les communes mettent en place pour assurer leur entretien et leur restauration. Donc l'idée du rapport, c'est de resocialiser ces édifices du culte, c'est-à-dire de leur donner d'autres fonctions qui soient bien évidemment compatibles avec leur destination première.
Il faudrait peut-être expliquer pourquoi certains édifices religieux peuvent être restaurés par l'État et pas d'autres.
Oui, alors ça c'est encore une fois la loi de 1905 qui a décidé que tous les édifices qui ont été construits avant 1905 seraient à la charge des communes pour l'essentiel et de l'État pour certains grands bâtiments comme les cathédrales. Et alors ça nous vient d'encore plus loin, ça vient de 1789 et de la nationalisation des biens du clergé par la Révolution. Donc là aussi, c'est un patrimoine historique fort, mais qui fait aujourd'hui, et c'est ce qu'a montré notre rapport, que le patrimoine religieux et français est sans doute l'un des mieux conservés d'Europe, parce que c'est un bien collectif, un bien commun, auquel tout le monde est attaché et que les mairies continuent d'entretenir.
Et si l'État n'entretient pas les mosquées en France, c'est parce qu'elles ont été construites pour la plupart, sinon toutes, oui, après 1905 ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors avec des grosses distorsions géographiques. Je prends l'exemple des Hauts-de-Seine, par exemple. Dans mon département, plus de 70% du patrimoine religieux catholique appartient à l'évêché, parce que c'est des édifices récents qui ont été construits après 1905. Donc là, la règle de la séparation de l'Église et de l'État fait qu'ils sont entretenus au seul frais du diocèse. Pour ce qui est du culte musulman, juif et certains cultes protestants, c'est des édifices qui ont été construits après 1905 et qui sont donc entretenus par les croyants eux-mêmes.
Pierre Ouzoulias, récemment, les députés ont voté un texte pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Est-ce que ces initiatives, comme la vôtre, qui vise à inscrire la loi de 1905 dans la Constitution, traduisent une inquiétude des partis républicains face à la perspective de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, qui a gagné 2 millions de voix aux législatives entre 2017 et 2022 ?
Oui, et puis il y a le précédent trumpiste aux États-Unis. Il y a des mouvements néoconservateurs extrêmement radicaux qui aimeraient revenir sur un certain nombre de droits acquis par les femmes, mais aussi par tous les citoyens. Et on n'est pas du tout à l'abri de ce mouvement. Je vois l'exemple de l'Italie, qui peut être inquiétant à plusieurs titres. Donc c'est triste d'en arriver là, mais malheureusement, pour protéger cette liberté individuelle, et pour les femmes, la première liberté individuelle, c'est de décider de ce qu'elles font de leur corps. Et ça, c'est une grande conquête du féminisme. La contraception, le droit à l'avortement, c'est des choses sur lesquelles les femmes aujourd'hui doivent se battre, parce que malheureusement, rien n'est irrémédiable et c'est des libertés qui peuvent être contestées demain.
Vous êtes pessimiste sur l'avenir en France, l'avenir politique. Vous pensez que l'extrême droite est aux portes du pouvoir ?
Oui. Oui, et je le dis avec d'autant plus de solennité que je suis petit-fils de résistant, qu'une partie de ma famille n'est pas revenue des camps de concentration et que je sais malheureusement que l'enchaînement des phénomènes politiques peut aller très très vite et jusqu'à l'irréversible. La République française, qu'on croyait éternelle, s'est sabordée en donnant tous les pouvoirs au maréchal Pétain. C'est des choses qui peuvent nous arriver aussi demain. C'est pour ça qu'il faut absolument aujourd'hui que le camp républicain se réunisse, qu'il soit de gauche et de droite, et qu'il réédifie la digue qui est bien menacée contre toutes les extrêmes droites.
Il faut que les Français se réapproprient leur histoire également, car on a le sentiment effectivement que cette histoire de la Seconde Guerre mondiale est un peu oubliée.
Oui, tout à fait. Qui se réapproprient toute leur histoire, y compris dans sa diversité. Sans oublier par exemple que c'est la Révolution française qui a donné la citoyenneté aux Juifs dont ils étaient privés. Que c'est la République qui a donné le droit de vote aux femmes. Je pense qu'elle devrait aujourd'hui le donner aussi aux étrangers qui sont là depuis longtemps sur notre sol et qui payent des impôts. La République, c'est vraiment ce que chacun doit défendre quotidiennement, parce que il défend ses libertés individuelles, mais aussi un certain esprit de ce que nous avons bâti depuis deux siècles et depuis 1789.
Pierre Ouzoulias, au Sénat, vous avez pointé la baisse du montant alloué à l'université, alors que les financements des classes prépa est lui préservé. Ce que vous dénoncez notamment, c'est le fait que le budget ne tienne pas compte de l'augmentation du nombre d'étudiants à l'université.
Exactement. Le nombre d'étudiants augmente, ce qui est une bonne chose, parce que ça permet une démocratisation de l'enseignement supérieur. Et la France en a besoin, parce que nous avons besoin de connaissances, de cerveaux pour faire face aux enjeux de l'avenir. Et je regrette que depuis une dizaine d'années et un peu plus, les universités sont obligées de satisfaire leur mission de service public sans aucune aide budgétaire supplémentaire. Donc là, elles sont arrivées vraiment aux limites de ce qu'elles peuvent faire, et ça a des conséquences sur la qualité de l'enseignement et puis la pédagogie des enseignants-chercheurs aussi.
Et de la même manière, vous réfléchissez aussi à une réforme de Parcoursup ?
La première réforme de Parcoursup, ça serait de construire les 3 ou 4 universités dont la France a besoin tous les ans. Ça fait 10 ans à peu près que la France n'a plus construit d'université. Elle craque de toutes parts. On n'est même pas sûr qu'elle pourra chauffer cet hiver. Donc, au-delà de Parcoursup, ce qu'on a besoin, c'est un nouveau plan d'université pour permettre que le service public de l'enseignement supérieur soit réellement réalisé selon des normes acceptables.
Merci Pierre Ouzoulias. Je rappelle que vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir à vous, merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.